Camarade gamer, c'est Creepers.
Camarade mélomane, c'est Rhône.
Et bienvenue dans la Beatbox.
Ah, l'horreur! Voilà bien un domaine qui a toujours trouvé son public, que ce soit dans les récits les plus anciens, dès les débuts du cinéma et aujourd'hui dans les jeux vidéo. Il faut dire qu'il n'y a rien de plus naturel. L'homme est avide de sensations fortes. De toutes les sensations, incluant la peur ou l'angoisse. Et franchement, c'est plus confortable de les ressentir face à un écran plutôt que dans la vraie vie réelle, non? En cette période très policée où le style horrifique est devenu politiquement correct au cinéma, avec tous ces films qui ne font peur qu'aux ménagères américaines de moins de 50 ans, c'est presque sur le petit écran qu'elle s'épanouit le mieux, que ce soit à la télévision ou, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans les jeux vidéo.
Et ça tombe bien, car si vous nous écoutez depuis un moment, vous savez déjà que Rhône et moi-même sommes très amateurs de ce genre. Alors attention, on vous prévient, ça va tâcher, ça va vraiment tâcher.
Et on commence en douceur avec un classique, vous avez tous reconnu Ghouls and Ghosts, évidemment c'est la version arcade que je viens de vous passer, un jeu qui date de 1988 et oui ça nous rajeunit pas. C'est une musique de Tamayo Kawamoto qui est une compositrice qui n'a pas beaucoup de titres de gloire à part cette musique, qui a bossé surtout chez Capcom, alors peut-être qu'elle a composé des trucs sans que son nom soit mentionné, en tout cas j'ai pas retrouvé grand chose je dois dire. En tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup cette musique qui est vraiment mythique hein, aujourd'hui, qui est la parfaite synthèse entre le gothique et le fun. Bon, tout le monde connaît Ghouls and Ghosts avec le roi Arthur hein, qui court au milieu des fantômes et des zombies en lançant des petites épées, et dont le caleçon rouge à pois blancs est devenu légendaire maintenant. Alors c'était un jeu qui était hyper dur, très sympa à jouer, ce quels que soient les supports, soit la NES, l'Amstrad CPC, l'arcade ou l'Amiga, c'était toujours bien, Ghouls and Ghosts, assez étonnamment. Hein, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, ça fait partie des jeux justement très très durs que je n'ai jamais fini, hein, forcément, parce que moi j'avais plus joué à la version Super Ghouls and Ghosts sur Super Nintendo, forcément. Mais ça fait partie de ces jeux que j'aime bien relancer des fois avec des potes pour voir jusqu'où on arrive encore à aller.
Ouais.
Et je vais pas très loin.
En général, c'est au deuxième niveau, moi, que je commence à avoir des problèmes, donc.
Ouais, c'est clair.
Vraiment pas évident. Voilà, alors, on voulait démarrer un petit peu en douceur et on va rester encore dans un jeu d'horreur cool, hein. Horreur cool. Ouais, ça va être un nouveau truc. Avec le jeu présenté par Creepers.
Thank you.
Alors on reste dans l'humour, on reste dans l'horreur, mais sympathique quand même, avec Medieval, avec les mésaventures de Sir Daniel Fortescue, chevalier qui revient d'entre les morts pour chasser l'infâme Zarok. Alors c'est un petit classique, hein, franchement, sur PlayStation 1, sorti en 1998. Alors c'est un mélange réussi d'action, de plateforme, alors dans un univers justement qui rappelle un petit peu Ghouls and Ghosts. Mm. D'ailleurs le créateur du jeu avait bien indiqué ses influences quand il a lancé la création de ce jeu-là. Et il y a aussi un petit peu d'Étrange Noël de Monsieur Jack, le film de Henry Selick, produit par Tim Burton. Que j'aime beaucoup, hein, franchement j'aime beaucoup. Donc on ressent un petit peu dans les visuels du jeu, notamment bah, sur le personnage de Daniel Fortescue. Et moi j'ai beaucoup de bons souvenirs sur ce jeu. Alors quand on le voyait dans les magazines à l'époque, c'était un jeu qui était très très agréable à l'œil. Hein. Au niveau graphisme, il y avait des belles petites textures, des couleurs un petit peu pastel comme ça. C'était aussi agréable à jouer, ce qui était relativement rare quand même.
Ce qui était pas fréquent, 3D, ouais.
Ouais, les jeux 3D de l'époque, surtout quand on les voyait avec la caméra de derrière, c'était pas évident à prendre en main généralement à cause des caméras. Donc ils avaient réussi à trouver un système avec la caméra assez fixe derrière le personnage. Et donc la musique colle parfaitement, je trouve, à l'ambiance du jeu. Il y a un petit côté forcément Danny Elfman, hein. Ça c'est, on le reconnaît un petit peu dans les sonorités. Voilà, on est vraiment en terrain connu. C'était un petit peu l'époque quand il y avait le combo Tim Burton, Danny Elfman dans les côtés un petit peu gothiques, beaucoup s'en inspiraient. Et c'est une bande son qu'on doit à Andrew Barnabas et Paul Arnold. Donc ils se font surnommer Bob and Barb, donc deux comparses qui ont beaucoup travaillé ensemble depuis des années. Ils ont fait entre autres la musique de Brink, hein, assez récent, qui a fait un petit flop quand même à l'époque. C'était un jeu multijoueur, Neverwinter Night 2, et aussi Sega Rally, qui était assez chouette, tout à fait. Et aussi Sega Rally Revolution, j'ai un peu moins de souvenirs, même si j'ai beaucoup joué au jeu à l'époque quand il est sorti sur Xbox 360. Mais en tout cas, voilà, au niveau des jeux horrifiques un peu grand public, Medieval, je trouve, sortait carrément du lot et c'était très chouette. Allez, on va franchir une barrière dans le gore, mais toujours un petit peu rigolo. Attention, j'ai sorti les guitares, hein, vous avez vu, c'est particulièrement rock'n'roll, hein, la musique de Lollipop Chainsaw, et on doit cette musique un petit peu énervée à Akira Yamaoka. Ça me dit quelque chose, j'ai l'impression que ce mec aime bien l'horreur, aime bien les univers un petit peu torturés, mais cette fois, Lollipop Chainsaw, on est un peu dans le film, allez, le gros bis qui tâche, un petit peu à la Trauma.
Clairement,
et justement...
Ouais.
Au niveau de Trauma, et ben vous avez un scénario qui a été écrit par James Gunn, et donc je parle de trauma, mais il a aussi fait des films un petit peu plus connus. Alors peut-être que vous avez entendu parler d'un film Marvel qui s'appelle Les Gardiens de la Galaxie, ça vous dit peut-être quelque chose. Eh bien, bah, c'est lui, il a aussi fait des films très très sympas comme Horribilis, qui était assez gore, ouais. Et aussi Super, qui est un film de super-héros un petit peu particulier, qui était sorti justement avant Les Gardiens de la Galaxie, que je vous recommande chaudement. Et donc, ces messieurs ont bossé en collaboration avec Suda51, qui a dirigé Lollipop Chainsaw, alors qui est un jeu... Alors effectivement, on en discutait avec Ron, qui a pas mal de défauts au niveau du gameplay, hein, parce que la prise en main est un petit peu rigide, et c'est pas non plus d'une profondeur absolue.
Ouais, c'est très répétitif à jouer,
ouais,
quand
c'est,
même.
C'est assez répétitif, mais justement, l'écriture est particulièrement fun. Je trouve que le duo entre Lollipop et donc la tête, parce qu'on joue donc une chasseuse de zombies professionnelle, c'est une famille de chasseurs de démons, et donc son petit ami se fait attaquer par des zombies, et juste avant qu'il soit complètement transformé, bah, elle a la super idée de lui couper la tête.
Mais ouais.
Et donc à réussir à le garder vivant quand même, et donc elle l'utilise comme porte-clé. Donc du coup vous avez tout le long du jeu bah, énormément de dialogue entre le Lollipop et la tête de son mec, et il y a plein de vannes qui arrivent dans tous les sens, et c'est même un tout petit peu plus intelligent au niveau de l'écriture que le jeu en lui-même, parce que je trouve vraiment que les interactions, les dialogues sont plutôt malins, surtout ouais. au niveau du personnage.
Et puis, c'est bien écrit, hein, c'est vraiment drôle ouais. quoi.
Voilà, c'est vraiment drôle. L'univers est très cool. Il y a plein de références à George Romero, aussi au film un petit peu comme ça de Teenagers. Donc moi, je vous recommande le jeu. Il se trouve pas cher. Ça n'a pas fait un carton absolu. Mais il se trouve vraiment dans les bacs à soldes un petit peu partout sur PlayStation 3 et sur Xbox 360. Et donc, Akira Yamaoka, Monsieur Silent Hill, hein, qui fait quand même à chaque fois des bandes originales assez cool, même sur des jeux moyens. Donc la preuve avec Lollipop Chainsaw et cette musique, elle défonce. Allez, on ne lâche pas la guitare. Et on passe sur Saturne. What can you do on the moon? You can't even breathe on the moon. Can't lie down in the dunes and hold your baby tight. You can't hug your baby on the moon. What can you do on the sun? You'd be burned to blazes on the sun. In the darkness with your love, trembling in the night, that could never happen on the sun.
À Attention, Mr. Bones, sorti en 1996 sur Saturn, est un ovni vidéoludique. Alors c'est un jeu qui est connu de finalement bien peu de gens, ne serait-ce parce que peu de gens avaient des Saturnes, c'est quand même une bonne raison déjà pour pas connaître.
C'est bien une bonne raison.
Et même là, sur Saturn, c'est pas un jeu qui a fait un carton, mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que tous les gens qui ont joué à Mr. Bones s'en rappellent, parce que c'est un jeu qui est marquant. Alors ça raconte une histoire complètement délirante d'un méchant qui veut purifier le monde par le mal. Bon, ça c'est le genre de plan démoniaque d'un méchant, il n'y a pas de problème avec ça. Et pour ça, il lève une armée de squelettes grâce à une musique maléfique. Et ça marche, tous ces squelettes ont des yeux rouges, ils sont terribles, sauf un, qui se baptise lui-même Mr. Bones, où lui, ça ne marche pas, il reste un gentil squelette, a priori parce que c'était un bluesman, ce qui doit vouloir dire que les bluesmans sont des gens trop gentils pour être pervertis par la musique. Et il va partir en guerre contre le mal, et il va le faire en musique. Donc c'est un jeu qui est complètement barré, qui est réellement drôle et qui mélange des tas de gameplay. Alors globalement c'est plus de la plateforme, de l'action, mais on s'en rappelle surtout pour une scène absolument mythique où donc Mr. Bones joue de la musique, fait un véritable concert devant une salle remplie de centaines de squelettes qui vont bouger au gré de la qualité de la musique qui est produite. Alors c'est complètement taré, complètement fou. Mais voilà, ça donne un jeu qui est très étonnant et qui mérite qu'on se penche dessus. Alors il est également extrêmement réputé par sa bande son, qui est composée par Ronnie Montrose. Alors moi je ne connais pas, mais pour une bonne raison, parce que je n'y connais rien en guitariste, voilà. Pas tout avoir surtout, mais a priori c'est un sacré musicien qui a une très grosse réputation et qui nous a quitté en 2012. Enfin, qui nous a quitté, je veux dire, qui est mort. Hein. Il n'est pas juste parti parce qu'il était avec nous.
Il est glauque le mec.
c'est un podcast de l'horreur là, oui.
C'est vrai.
Et en tout cas, ce qu'il a fait pour Mr. Bones, il a sorti en album. C'est une OST qui a une énorme réputation, qui est d'une très très grosse qualité et qu'on peut se payer sans problème pour 100 modiques dollars si on veut un CD neuf encore aujourd'hui, juste pour dire que c'est une OST qui est quand même assez recherchée. Écoutez, ça tombe bien, vous voyez, nous on est sympa, on vous en passe un morceau où c'est donc lui qui chante sur ce morceau, qui donne une idée de ce qu'on peut entendre dans le jeu et de ce qui s'intègre si bien dans cet univers complètement barré. Bon, on a passé un petit peu de temps finalement sur des jeux qui utilisent l'horreur mais qui font pas vraiment peur. Il serait peut-être temps qu'on passe quand même à quelque chose d'un petit peu plus hardcore. Et si on se faisait une bonne session sur nos amis les Omblards ?
Thank you.
Alors ça arrive très tôt dans l'émission, mais voici la partition cinématographique de nos choix musicaux et je viens de vous proposer la musique de l'excellent film L'Enfer des Zombies, donc qui est sorti en 1979, réalisé par Lucio Fulci. Et donc la musique a été composée par Fabio Frizzi, donc c'est un film italien, vous l'aurez compris, de la grande époque.
Et
grande
ouais.
Époque, voilà, du film de genre italien. Et justement, Lucio Fulci, donc il avait la réputation d'être le maître du macabre, du putride. Et bah avec ce film-là, bah vous en avez la preuve, parce que c'est un film qui est glauque, effectivement. Donc, mais il y a beaucoup de films glauques. Mais ce que j'adore dans les films de Lucio Fulci, c'est que quand vous avez un film de zombies, eh ben c'est crade, c'est vraiment crade, mais vraiment dans le côté vraiment ben justement putride, quoi.
Ouais,
vous voyez
que
les chairs sont décomposées. Si vous touchez un petit peu le zombie, vous sentez que la peau peut rester comme ça collée sur vos doigts. Donc c'est un film qui est vraiment malsain. Et c'est ni plus ni moins qu'un de mes films de zombies préférés.
Ah, bah quelques images quand même absolument mythiques dans ce ouais, film-là. On l'évoquait un petit peu là. Il y a la traversée du pont à laquelle on pense forcément, quoi, qui clôt le film. Mais aussi le fameux combat entre un zombie et un requin.
Alors vous imaginez bien, moi, s'il y a des zombies, en plus il y a des requins. moi je suis emballé, c'est pesé. Alors pour l'anecdote, le film devait s'appeler, et ce n'est même dans certains pays, Zombie 2. Mmh. Donc faut savoir quand même que les Italiens de cette époque-là étaient un petit peu opportunistes. Donc ils aimaient bien profiter, donc ils voulaient surfer sur le succès donc de Zombie, qui était déjà une suite, parce que c'était déjà la suite de La Nuit des Morts Vivants. Donc ils ont voulu appeler ça Zombie 2, le film de George Romero. Mais donc au final en France ça s'appelle L'Enfer des Zombies. Et donc voilà, on vient de l'évoquer un petit peu, hein, c'est du film un petit peu old school, donc relativement lent. Donc si vous êtes habitué comme ça des remakes de L'Armée des Morts, des films assez hystériques comme 28 semaines plus tard, 28 jours plus tard avec des zombies qui courent un peu dans tous les sens, là le rythme est posé, le rythme est assez lent. Et Fulci fait partie pour moi de ses chefs-d'œuvre. Donc il a fait des films comme Les Quêtes de l'Apocalypse, City of the Living Dead ou encore Scorpion with Two Tails. Voilà, c'est un réel que j'aime beaucoup. Et le réel a bossé beaucoup justement avec Fulci à l'époque et aussi avec un autre réel que j'aime beaucoup puisqu'il a fait Les Guerriers du Bronx, c'est Enzo G. Castellari. Vive la série B italienne.
C'est clair.
Allez, on retourne sur console, on revient en 2016 et sur Xbox, PS4 et PC.
Dying Light a débarqué en 2016 et ce jeu a quand même été un peu une surprise et plutôt, en ce qui me concerne, une bonne surprise.
Oui, c'est vrai.
Alors, c'est un open world avec des zombies et du parcours. Voilà un mix qui est plutôt sympa. Des zombies qui courent, hein, pour le coup. Là, on n'est pas avec des zombies qui se traînent comme ceux de l'enfer des zombies. Et rien que le concept au départ sent bon les 80s dans ses thèmes et dans son traînement, puisque, franchement, on est dans une zone de quarantaine dans laquelle il faut survivre. Ça vous rappellerait pas un petit peu un New York 1997? Enfin, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Hein.
Légèrement.
Et justement, la musique de Pavel, alors attention, score maximum au Scrabble, Blazczak, avec des Z et des C un petit peu partout, qui est un Polonais spécialisé dans la musique électronique, sent à plein nez le John Carpenter. C'est un petit peu une raison pour laquelle, j'avoue, j'ai sélectionné ce morceau, parce que je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de John Carpenter. Je sais pas ce que t'en penses.
Il y a au moins une émission, peut-être.
Ouais, ce qui est quand même un petit peu un scandale. Et bon, voilà, je trouve qu'il le fait avec un certain talent. On retrouve vraiment le style de Carpenter, là, avec une ligne de fond qui est assez répétitive, qui vient s'enrichir. Bon, ça sent bon le synthé des années 80. Et le jeu, dans l'ensemble, sent le film des années 80. Donc tout ça est hyper raccord. Mais en tant que jeu, par contre, c'est très moderne comme gameplay, dans les possibilités de ce qu'on peut faire. Donc c'est franchement agréable à jouer. Moi, c'est un jeu que je conseille, en première intention, qui m'avait pas plus emballé que ça, mais sur lequel je suis revenu après, et sur lequel je me suis vraiment bien amusé, quoi. Alors, les jeux de zombies, on en a quand même deux ou trois à vous présenter, hein, même peut-être un petit peu plus. Et il y en a un, étrangement, qu'on n'avait pas encore passé jusqu'à présent. Il était temps qu'on répare cela. Et oui, vous avez peut-être reconnu une musique de The Last of Us, sortie en 2013 sur PS3, puis ressortie je sais plus quand sur PS4, et qui va ressortir encore à nouveau sur PS4 Pro. Donc je crois que The Last of Us va sortir tous les deux ans, hein, puis à partir de maintenant.
Pour un jeu qui s'appelle The Last of Us,
ouais, c'est quand même assez drôle. Sachant que la toute première version, hein, en 2013 sur PS3 était super jolie et c'était un jeu génial, hein, à la base déjà.
C'était le champ du cygne de la console, on pensait même pas qu'elle pouvait faire ça, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est un jeu que j'ai adoré, The Last of Us. Pour moi, c'est le jeu le plus abouti de Naughty Dog, et même de loin. Donc, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de parler du jeu? On est dans un monde donc post-apo, fin du monde, et oui, il y a des espèces de zombies et de bestioles qui sont par là. Donc c'est raccord avec le thème, mais c'est pas tellement pour ça que je voulais passer ce morceau, c'est surtout parce que je l'adore. La musique a été faite par Gustavo Santaolalla, et non, ce n'est pas une blague, c'est vraiment son nom, qui est un compositeur argentin qui a surtout travaillé sur beaucoup de films. Alors voilà, j'en ai relevé un comme ça en passant, Brokeback Mountain, parce que je trouve que c'était raccord avec The Last of Us. Non, pas tellement finalement. Bon. Non, mais c'est parce que ça lui a valu un Academy Award, donc
j'ai relevé ça. Et tu as signalé que, alors ce qui est bien, c'est que quand tu découvres des noms assez particuliers, tu arrives à les retenir. Et moi, je suis tombé amoureux d'une série qui est juste incroyable. Du coup, ça me permettrait de vous faire un petit conseil comme ça, qui s'appelle Making a Murderer sur Netflix. Et c'est lui qui a fait le thème principal de ce show-là, alors qui est un système policier, un docu-fiction, comme on dit. Et c'est lui qui a fait la BO, mais regardez cette série, mais vous ne croirez plus en l'humanité par contre, hein, ça c'est très important, mais j'ai adoré.
Bon, donc regardez cette série si vous en avez marre de l'humanité, c'était le conseil du jour. Alors pour l'anecdote sur cette musique The Quarantine Zone, donc qui est présente hein, sur le CD de la BO de The Last of Us, alors j'avoue que moi c'est mon morceau préféré de la BO, de loin. Mais je me souviens pas bien du moment où on entend cette musique. Et du coup, j'ai fait un petit peu des recherches pour savoir à quel endroit est-ce que c'était dans le jeu. Et il semblerait qu'elle n'ait pas été exploitée telle qu'elle dans le jeu. Ce que je trouve vraiment incroyable, parce que quand même, c'est une musique qui est très poignante. Et je trouve qu'il retranscrit à la perfection l'ambiance de The Last of Us. Je suis un petit peu surpris qu'elle soit pas là telle qu'elle. Alors si vous voulez me contredire, n'hésitez pas, hein, mais... C'est ce que j'ai retrouvé quand j'ai cherché à quel endroit c'était. Donc voilà, terminé pour The Last of Us. Enfin, à moins qu'il y ait des nouvelles musiques sur les nouvelles versions, auquel cas on en repassera peut-être d'autres morceaux. Cette fois, on va aller faire un petit tour auprès d'une série mythique de l'horreur et en particulier des zombies.
Forcément, émission spéciale Halloween, partie zombie, bah, il fallait bien qu'on parle quand même de la série culte Resident Evil Code Veronica. Alors c'est dispo maintenant sur plein de trucs, hein, parce que ça devait être une exclue Dreamcast, hein, comme ils sont très très forts chez Capcom, ils ont aussi fait le coup à l'époque sur la GameCube. Donc c'est sorti sur PS2, sur PC, là sur PS4, Xbox One, dans des versions remake HD, etc. etc. Alors en parlant de remake, s'il n'y avait pas eu le remake GameCube du premier, je pense vraiment que ça serait mon Resident Evil préféré.
Moi ça reste mon Resident Evil préféré.
Et alors un peu comme l'enfer des zombies, on est sur une version un peu old school de Resident Evil, et c'est ce que j'apprécie justement dans ce Resident Evil là, c'est que certes il n'apportait pas des nouveautés fracassantes au niveau de son système de jeu, au niveau justement de la caméra, parce que c'était tout 3D, donc les gens voulaient des caméras libres, etc. Alors c'est pas forcément la meilleure idée, hein, de passer en caméra libre même si vous êtes en 3D, parce que ça peut jouer sur l'atmosphère, enfin bref, mais c'est un des Resident Evil les plus intéressants au niveau de ses personnages, au niveau de son ambiance, qui est beaucoup plus malsaine que dans les autres Resident Evil, qui sont alors malsains, qui sont plus dans l'horreur qui fait peur avec des boues, je suis là derrière le placard. avec alors certes des zombies assez lents et surtout dans le remake qui est assez glauque par rapport aux anciens Resident Evil, mais ce Resident Evil là avec les Ashford, avec le côté un peu Hitchcockien de ces personnages, des retournements de situation assez cool, et vraiment les décors, les gestions de la lumière, la musique, il y a vraiment une ambiance qui est très très pesante dans ce Resident Evil là. Et justement, la musique qu'on vient d'écouter, donc qui s'appelle The Suspended Doll, retransmet bien l'ambiance assez pesante de ce Resident Evil là. C'est composé par Takeshi Miura, Injiri Enze et Sanae Kazahara. Et d'ailleurs, on va réparer une petite injustice. C'est vrai qu'on a été dans la dernière émission un petit peu, je trouve, vilain avec les musiques des Resident Evil, parce que j'ai réécouté du coup beaucoup de musique des Resident Evil. On avait dit que c'était généralement assez anecdotique. Alors, alors, je trouve que moi j'étais un peu violent, parce que surtout les musiques des premiers, je trouve que les compositions sont quand même assez pesantes, assez travaillées, et notamment les musiques, bah forcément la Save Room hein, des Resident Evil. Alors, qui passe toujours voilà, très bien. Celle quand même du hall du premier, moi je trouve que elle est mythique, parce que peut-être le jeu m'avait marqué à l'époque, et donc c'était les premiers niveaux que tu rencontrais, donc moi je trouvais ça assez cool. Mais c'est vrai que je reste quand même sur le fait que par rapport à d'autres séries, j'ai pas de... Mais bon, Silent Hill est tellement bien, forcément.
Disons que dans les Resident Evil, ce n'est pas que les musiques sont mauvaises, c'est qu'on est sur des mesures qui sont très courtes. Et qui fonctionne bien quand on change d'une pièce à l'autre, ça marche très bien en jeu, mais à l'écoute, moi je maintiens que c'est assez anecdotique quand même.
Ah oui, à l'écoute, j'ai du mal à écouter un album de Resident Evil. Je veux dire, là, je vais pas me mettre la musique comme ça de Resident Evil, sauf si je fais une soirée Halloween à la maison, parce que tu fais pas trop attention, ça peut t'installer une ambiance. Mais c'est vrai qu'une musique de BO comme Silent Hill 2, je vais toujours revenir là-dessus, mais même tous les Silent Hill, tu peux les écouter comme ça, à part, parce que t'as vraiment des très belles compositions qui t'installent vraiment quelque chose de particulier. Mais je trouve que sur cette musique choisie là de Code Veronica, elle s'écoute vraiment comme ça,
ouais, ça
à
marche
part.
Bien.
Il y a pas mal de musique dans ce jeu-là qui fonctionne. Et donc il était temps de rendre hommage à cette série. Allez, on quitte Resident Evil, on prend son cheval et on reste quand même chez nos amis les zombies. Voilà dans les plaines hantées de Red Dead Redemption, Undead Nightmare. Alors, jeu culte s'il en est, hein. Red Dead Redemption vient de refaire parler de lui en plus, hein. Le hasard fait bien les choses, puisque Red Dead Redemption 2 a été annoncé il y a peu de temps avec un trailer qui m'a frisé les moustaches.
C'est pas mal. Ouais, ouais.
Voilà, j'ai trouvé ça assez cool. Travailler sur les ambiances, tout ça, ça a l'air vraiment super chouette. Et donc, en plus, Red Dead Redemption est compatible sur Xbox One. Et oui, si vous voulez rejouer à Red Dead, vous pouvez rejouer à Undead Nightmare aussi. Et donc, on vient d'écouter un morceau de la bande originale de l'extension horrifique de Red Dead. C'était au début, hein, où c'était un petit peu à la mode à l'époque de faire des extensions zombiesques comme ça. Mais bien sûr, avec Rockstar, une extension, bah, c'est pas seulement un petit truc comme ça à 20 balles avec deux petits niveaux et une petite cape. Là, c'était vraiment une aventure complète qui faisait suite à ce qui se passait dans le Red Dead original. Et c'était particulièrement réussi, les ambiances étaient travaillées. C'est vrai que le côté western comme ça mélangé avec l'horreur, ça fonctionnait
ça
à fond les ballons.
Très bien.
Et c'était original, et donc encore maintenant, c'est parfaitement jouable, parce que le jeu reste très très beau, il y a quand même une patte graphique particulière, et le côté un petit peu ouest comme ça, bah, ça fonctionne bien, et le jeu reste une claque absolue, donc vous pouvez encore y jouer facilement si vous avez une Xbox One.
D'ailleurs, c'est comme ça que je suis en train de découvrir, moi, ce mode, cette extension zombie que je ne connaissais pas, grâce à la rétrocompatibilité, effectivement, c'est vraiment excellent.
Alors maintenant qu'on a mis une balle dans la tête de tous les zombies qu'on avait dans les parages, il est temps de s'occuper des Psycho Killers. Qu'est-ce que c'est ?
À mon tour de passer une petite sélection ciné, et je reconnais un petit coup de triche puisque je vous passe un même thème mais que je propose en deux versions, ce qui me permet de parler de deux films n'ayant rien, mais alors rien à voir. En premier, on a entendu le film fondateur des Psycho Killers avec le psychopathe ultime Norman Bates, puisque vous avez reconnu bien sûr Psychose de ce bon vieux Alfred Hitchcock. La musique était alors écrite par Bernard Herrmann et est déjà d'une formidable efficacité. Alors à noter, hein, vous les petits jeunes qui écoutez le podcast, que Psycho, ça date de 1960 et que c'est toujours aussi bien à voir. Alors c'est en noir et blanc, peut-être, mais je peux vous assurer que c'est un film qui fonctionne toujours aussi bien, qui est incroyablement moderne dans sa réalisation. Quand on dit que Alfred Hitchcock est un génie, c'est pas un terme galvaudé. C'est incroyable le nombre de choses qu'il a inventées dans ses films. Et Psycho, c'est un film important parce que c'est un film dont, mais quoi, des milliers de films se sont inspirés.
Alors je valide complètement ce que tu dis parce que je l'ai découvert. Alors, je sais plus, c'est cette année ou l'année dernière. grâce à Arte qui diffuse régulièrement des grands films. Franchement, Arte, c'est pas pour faire un peu bobo, parce qu'il y en a plein qui se foutent de la gueule de Arte, mais ils ont quand même une sélection de films de genre assez incroyable. Et donc j'ai découvert ça sur Arte en qualité HD, et ça c'est quand même assez chouette. Et malgré le fait que le film soit effectivement assez vieux, et ben ça reste d'une sacrée modernité. Et même quand on connaît le twist, que tout le monde connaît le ouais. twist du film, et ben ça marche à fond les ballons. Et l'acteur qui joue Norman Bates, il est juste incroyable.
Ouais, Anthony Perkins.
Exact.
Alors, la feinte, c'est que, voilà, il y a une autre version de la musique, parce que là, je me la suis un peu racontée, je vous parle d'un chef-d'œuvre, d'un classique, etc. Parce que l'autre version, ouais, ça vient d'un film qui est peut-être un tout petit peu moins recommandable, même si je confesse, évidemment, l'adorer d'amour. Alors, attendez, si je vous dis la combinaison, sortie en 1985, produit par Brian Yuzna, réalisé par Stuart Gordon, qui est un type que j'aime vraiment beaucoup.
Pareil.
Et avec, en tête d'affiche, Jeffrey Combs et sa tête de fou, et Barbara Crampton, qui a été responsable de bien des émois chez les jeunes de l'époque. Bon, vous avez compris, je vous parle de Reanimator, ce film complètement barré.
Ah, il est complètement fou, ce film.
Alors, censément une adaptation d'une nouvelle de Lovecraft. Ouais, tu parles, je l'ai lu, la nouvelle en question. Alors, c'est un rapport très lointain, hein. Le seul rapport, c'est qu'il y a un liquide qui réanime les morts, donc c'est notre ami Jeffrey Combs qui ne peut pas s'empêcher de réanimer tout ce qui passe, de mélanger les choses, etc. Très franchement, un film comme ça, ça pourrait plus exister aujourd'hui, parce que c'est trop cintré. Et je peux que conseiller d'avoir la curiosité d'aller essayer de regarder à quoi ça peut ressembler, un film des années 80 complètement taré. Pour moi, Reanimator, c'est un des meilleurs représentants de cette époque, mais je dis pas ça avec un air moqueur, du genre c'est un truc passé, c'est kitsch ou quoi que ce soit. Non, je le pense réellement, c'est plein d'inventivité. Évidemment, c'est pas sérieux, évidemment, c'est taré, mais c'était du putain de ciné quand même.
Il y a un côté libre en fait.
C'est ça.
Tu vois que les mecs ils s'éclataient à faire des histoires complètement folles, et donc les aventures du docteur Herbert West sont c'est hyper truculent, donc ça reste c'est gore, mais c'est du gore fun.
Exactement.
Et même les suites, alors le 2
les puissants, The Brain of Arnie.
Et moi j'aime beaucoup le 3 en fait, bizarrement, qui a été un petit peu conspué. Mais il y a quand même une baston entre un sexe réanimé
ah oui.
et un rat. Donc voilà, rien que pour ça, je me dis voilà, il faut regarder tous les réanimateurs. Mais c'est vrai que le 1 c'est une véritable claque. Et comme tu le précises, ça fait partie vraiment de ces productions bis des années 80 où les mecs, tu sentais qu'ils pouvaient faire un petit peu ce qu'ils voulaient.
Exactement.
Et ça se ressent complètement. Il y a un côté punk un peu comme ça dans ce film. Et c'est vrai que Stuart Gordon est encore un réal en activité. Et j'aime beaucoup ce mec parce qu'il est très rigoureux dans sa mise en scène. Et même avec des petits budgets, il arrive à te faire des films de grande qualité, quoi. Il a fait Fortress avec Totov, quand même.
Non, mais t'as raison de le préciser en passant, c'est bien réalisé. C'est pas parce que c'est une série B que ça n'est pas bien réalisé, c'est vraiment bien réalisé. Stuart Gordon, c'est très bien ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est, à mon avis, plutôt sous-estimé. Même ses films pas bien, je trouve que c'est bien réalisé. Voilà.
Ouais, il y a toujours des petits trucs. Et en parlant de personnes un petit peu sous-estimées, donc il y a aussi donc l'acteur principal, dont là maintenant j'oublie le nom, tu l'as déjà dit, mais j'ai oublié le nom.
Jeffrey Combs,
qui est un acteur fabuleux et qui est notamment incroyable dans le film Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson.
Il a
un rôle qui est juste grandiose et voilà, c'est partie de ces acteurs comme ça de série B qu'on voit beaucoup dans les seconds rôles. Donc beaucoup de personnes oublient le nom, mais on voit un petit peu la tronche, on les reconnaît assez facilement.
Bon, bah en tout cas, ça m'a fait drôlement plaisir de réussir à parler aujourd'hui à la fois de Psychose et de Reanimator. Bon, c'était la petite parenthèse ciné. On retourne dans le monde vidéoludique avec nos histoires de tueurs en série.
Ah, le slasher, j'aime bien ça. Et je sais que t'aimes ça aussi, Rod.
Et ouais.
Donc, être dans un jeu qui reprend les codes de ce genre cinématographique qui a été quand même popularisé par le Halloween de Big John, moi, je dis oui. Alors, au choix, on joue soit les teenagers qui doivent un petit peu s'entraider pour essayer de sortir d'une espèce de grosse zone bloquée avec des pièges, etc. Et soit, et c'est quand même vachement plus jouissif, on joue le gros boogeyman. Donc là, on est en vue première personne. Alors que avec les teenagers, on est en vue à la troisième personne, donc là on est en vue FPS, et donc là on doit traquer comme ça ces petits fornicateurs fumeurs de joint. Donc on a plusieurs personnages différents, dont depuis une mise à jour assez récente, le Michael Myers de Halloween de Carpenter.
Ah,
et
c'est
rien
foutu.
Que pour ça, franchement, c'est la classe. Et en plus, ils ont rajouté aussi Laurie Strode, donc le personnage joué par Jamie Lee Curtis, donc dans le film de John Carpenter. Donc voilà, c'est pour les fans de slasher, il y a le petit truc comme ça qui permet de craquer. En plus, alors je sais pas s'il sera encore en promo au moment de la diffusion du podcast, mais le jeu est en promotion sur Steam là pour les fêtes comme ça d'Halloween. Donc je vous recommande chaudement ce jeu parce que les mécaniques fonctionnent bien. Donc si vous avez joué à des jeux un petit peu à la Left 4 Dead où ça demande pas mal de coopération avec le gros méchant qui doit tuer tout le monde, aussi un petit peu comme Evolve, qui est sorti un petit peu de temps, qui a fait un bide retentissant et qui vient d'être annulé d'ailleurs, hein, parce que bon, voilà, le pauvre, voilà, il avait des grosses ambitions, mais il s'est un petit peu planté parce qu'il avait oublié d'être fun, ce qui est quand même un petit peu grave.
C'est con.
Et donc Dead by Daylight s'est sorti donc cette année en 2016, et le thème est composé par Michelle F. April. Alors qui a rien fait de fou à côté de ça. Donc moi le thème là, je le trouve plutôt sympathique. La bande originale au complet et pas hyper marquante, par contre le thème fonctionne bien, et comme on est dans le menu comme ça en train de créer ses équipes, donc on l'entend assez régulièrement, donc heureusement qu'elle est bien. En tout cas, l'ambiance du jeu est assez réussie, le jeu est plutôt joli, il est prévu aussi sur PlayStation 4, donc il est sur PC aussi, ça je l'ai dit, donc prévu sur PlayStation 4 peut-être dans le cours de l'année prochaine. En tout cas, si vous avez un PC assez robuste pour le faire tourner et que vous aimez les jeux en coopération dans des univers horrifiques, c'est une très bonne surprise. Allez, fini les slashers, fini les boogeyman et les psycho-killers, et cette fois, on va sombrer dans l'antre de la folie. Thank you.
Alors j'en avais déjà parlé dans un autre podcast en passant un morceau joyeux qui s'appelait Life is Beautiful. Cette fois c'est l'inspiration évidente de Twin Peaks que je mets en avant dans ce nouvel extrait de la VO du génial Deadly Premonition. Alors, je l'avais déjà un petit peu dit, mais on va le redire encore. Moi, ça, c'est un jeu que j'aime d'amour, qui est mal foutu, qui a encore plus de défauts que Creepers. Mais par contre, il est juste fou. On parle d'un voyage dans la folie. Ben là, c'est un univers qui est complètement fou, avec un personnage principal qui se parle à lui-même dans des monologues dignes de Tarantino et faisant preuve d'un beau niveau de sous-culture. Des PNJ qui sont tous cintrés et dont on devine des histoires derrière l'histoire. Ça sent le jeu qui est très écrit, un monde qui aurait pu être encore plus exploité, qui pousse à la curiosité, mais surtout qui est très lynchien dans sa représentation. Alors parfois de façon très évidente, il y a un personnage qui porte une bûche, la musique qu'on vient d'entendre, elle évoque évidemment très très fortement le générique de Twin Peaks, mais même d'une façon plus général, on a cette espèce de regard d'une réalité qui est juste un petit peu décalé. C'est pas n'importe quoi, ce qu'on voit, c'est juste un petit peu décalé. Et ce petit décalage, c'est ce qui donne toute la particularité à l'univers de Deadly Premonition, jeu moche comme tout, mais que je conseille très très fortement, ne serait-ce pour essayer, pour voir ce que c'est, pour voir si on accroche ou pas, parce que si on a la chance d'accrocher, on passe vraiment un très très bon moment sur ce titre. Alors la musique est le fruit du travail de Ryohu Kinugasa, de Takuya Kobayashi et d'Hiromi Mizutani, et c'est tout l'album qui est une merveille, pas juste ce morceau ou celui que j'ai passé l'autre fois. Tout est bien, il y a des morceaux qui sont très variés, restant dans une dominante très jazz d'une façon générale, mais aussi avec des incursions d'horreur pure, avec des morceaux qui sont plus légers. Et ça nous donne l'impression globale d'être dans une ambiance qui est à la fois planante, calme et folle. Et ouais, tout ça en même temps. C'est vraiment une grande BO que je conseille à tous. Allez, on va passer à un autre jeu, tout aussi taré, mais dans un registre très différent. Alors on vient d'entendre un morceau très étrange issu de D4, je le dis en anglais pour se le raconter, mais en fait c'est D4 hein, le titre, qui est sorti en 2014 sur Xbox One, et c'est un jeu que j'appellerais un échec sympathique, un petit peu comme sur Nanarland, on parle des mauvais films sympathiques. C'était un jeu qui était censé montrer ce que Kinect pouvait faire, enfin que Kinect pouvait faire quelque chose. Alors, dans les faits, il se trouve que c'est à moitié réussi, car effectivement, on pouvait jouer à ce jeu avec Kinect, sauf que c'était plutôt le jeu en lui-même qui posait souci. Donc on est dans une sorte de monde délirant permanent. Alors c'est typiquement japonais, alors peut-être un peu trop pour les occidentaux, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de mélange des genres qui fait, à mon sens, que aucun genre ne fonctionne et que le jeu n'arrive jamais à trouver le ton juste. On passe de scènes qui sont complètement nonsensesques à des moments où on devrait être inquiet, voire où on devrait avoir peur, à d'autres moments qui sont carrément embarrassants, avec voilà, des trucs typiquement japonais, quoi, des femmes habillées en chat, enfin des trucs comme ça. Bon, pour moi, en fait, le bilan, il est clair, c'est que ça ne fonctionne pas. J'aime bien les trucs un petit peu tarés, mais encore faut-il qu'il y ait une espèce de logique interne qui, pour moi, n'existe pas dans ce jeu. Par contre, ça n'empêche pas qu'au niveau de la musique, D4 assure plutôt bien. Alors, il y a 4 compositeurs qui sont sur le coup, et le morceau qu'on vient d'entendre, lui, il a été composé par Atsushi Yamaji. Je dois dire que je sais pas du tout qui c'est. J'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'il avait fait. Bon, ben, il y a vraiment pas grand chose. Mais ce morceau, moi, je trouve très réussi, justement, dans l'illustration de la folie, avec cette espèce de voix là, gutturale, qui est mélangée à des rythmes jazzy, et le tout s'énervant doucement, en quelque sorte. On reste avec un rythme lent, mais qui s'énerve malgré tout, et qui donne un peu l'impression d'inéluctabilité d'un destin funeste qui va arriver. Et c'est pas évident de réussir à faire passer ça quand on est sur un jeu qui justement a tant de mal à trouver le ton exact.
Et puis le destin funeste, il a eu le jeu, hein, parce que du coup il devait avoir plusieurs épisodes et au final bah, il y en a eu qu'un.
Oui, c'est clair.
Et en fait, le seul souvenir que j'ai de ce jeu, c'est l'embarras de communication qu'il y a eu autour de la sortie, parce que le jeu devait sortir en même temps que la console, il a été repoussé, et d'un seul coup, du jour au lendemain, il y a eu une annonce que le jeu était dispo, paf, comme ça. Et ce qui, pour un jeu dématérialisé, bah, si tu communiques pas dessus, bah, tu foires complètement ta sortie.
C'est clair.
Et ça a fait un bide, mais mortel, donc au point que le jeu a été offert en disant, bah, si vous le prenez maintenant, il y aura peut-être la suite. Enfin bref, c'était le n'importe quoi. Puis bon, après, ton Kinect a été balancé aux chiottes. Donc voilà, triste destin pour ce D4 qui a l'air tellement intéressant qu'il a été gratuit, je n'y ai même pas joué.
Voilà, ça donne une idée. Bon, en tout cas, on en aura passé une musique qui, elle, est plutôt cool, et comme personne n'y a joué, finalement, bah, fallait au moins passer une musique pour qu'on se rappelle qu'il existe. Allez, on va passer à autre chose pour la sélection de Creeper, sur un jeu qui nous a beaucoup plu à tous les deux et qui était sur Nintendo 64, si je ne me trompe pas.
We'll be right back.
Effectivement, Shadowman est sorti en 1999, alors non seulement sur Nintendo 64, mais aussi sur PlayStation, sur PC, sur Dreamcast, donc vraiment sur plein de choses. Et c'est un jeu qui, alors à l'époque justement, j'avais découvert un peu les survival horror, il y avait eu Resident Evil, il y avait eu Silent Hill, et donc ce jeu a essayé de nous attirer avec une ambiance un petit peu mystique, avec les bayous, avec la magie noire, avec le vaudou, etc. Donc ce qui était un petit peu original, et donc on jouait donc le Shadowman, qui est un personnage qui arrive à traverser les dimensions, un petit peu comme dans Soul River, rappelez-vous.
Qui s'appelait le roi, je crois, si je me trompe.
Exactement. Donc un personnage qui était assez charismatique, et donc c'était un mélange de jeu d'action à la troisième personne avec des phases de plateforme qui étaient un peu mal foutues. Il y a quand même quelques défauts dans Shadowman, mais l'atmosphère un peu poisseuse et son personnage faisait que, bah, franchement, j'avais vraiment accroché au jeu. Il y avait des phases de tir comme ça où il y avait de la caméra qui avait quelques petits problèmes, mais vraiment l'écriture, et vraiment l'écriture et même le côté vraiment malsain de certaines scènes fonctionnait vraiment bien par rapport à l'époque où il n'y avait pas trop de choses comme ça qui se faisaient. Et avec en plus la musique de Tim Haywood qui arrivait à asseoir comme ça cette atmosphère un petit peu vraiment des coins un peu reculés des États-Unis. Bah donc là on a écouté la musique ending par exemple qui clôture un petit peu le jeu. Et la bande originale accompagne vraiment l'ambiance et ça fait partie vraiment des petites réussites comme ça qu'on n'attendait pas trop à l'époque. Il y a eu une suite qui n'a pas trop fait parler d'elle, mais donc qui a complètement éteint la licence. Mais voilà, Shadowman, moi j'ai un très bon souvenir de ce jeu-là.
Et à noter qu'en Europe, c'est un jeu qui avait été reçu de façon assez tiède par la critique, alors que plutôt bien reçu aux États-Unis. Hein, bon, ça vient d'un comics en même temps. Mais ce qui fait que c'était plutôt bien que c'était reçu de façon tiède, moi ça a accentué la bonne surprise du jeu. J'avais beaucoup apprécié d'y jouer, quoi, ce Shadowman.
Allez, je garde la parole et je vais parler d'un gros coup de cœur que j'ai eu à l'époque de la Xbox 360. Notre cauchemar se passe en
2007 et on vient d'écouter la musique de Clive Barker's Jericho, sortie sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Et je fais partie, alors avec Ron, parce que comme quoi, vraiment, on a les mêmes goûts, hein. On est les deux seuls acheteurs de Clive Barker's
Jericho. En fait, on est les deux déviants, quoi.
Exactement. Alors moi, donc, j'ai acheté, parce qu'on en parlait juste à l'instant, moi je l'ai acheté parce que c'était marqué Clive Barker's. Ouais. Donc j'aime cet auteur britannique et aussi réalisateur, parce qu'il a fait Hellraiser, quand même, le mec, hein. Et aussi
Cabal,
donc des films assez malsains avec un univers assez torturé. Et justement, l'univers de Clive Barker's Jericho est torturé. Il y a des trucs assez malsains qui se passent comme ça dans ce jeu-là. Alors c'est un jeu où on joue donc un personnage en fait qui meurt au tout début. Donc, ce n'est pas un spoil puisque c'est vraiment le gameplay qui part à partir de ça et qui arrive parce que chacun a un pouvoir particulier et lui arrive à passer d'un corps à l'autre de ses petits copains, ses petits camarades pour pouvoir du coup utiliser les pouvoirs de chacun pour progresser dans le jeu. Alors ça fonctionne relativement bien. Le jeu était assez dur. Ce qui fait qu'il a été un petit peu cassé au moment de sa sortie, mais vraiment l'ambiance et le travail justement sur la musique donc, qui est de Chris Velasco, hein, qui est un excellent compositeur. On a déjà écouté à l'époque, je crois, il a fait la musique de Zombie U, donc la première émission d'Halloween, il y a eu la musique de Chris Velasco, et je trouve que cette musique est très très bonne et l'ensemble de l'album est très cool. Il y a des musiques très très gothiques avec des grosses voix comme ça qui reviennent de temps en temps pour appuyer l'ambiance de certains décors. Et donc le jeu a fait un gros bide et j'ai découvert en refaisant l'émission, parce qu'à l'époque j'avais pas fait attention parce que c'était pas très très connu, mais donc c'est fait par Mercury Stream, les mecs qui ont fait les derniers Castlevania, qui sont quand même des jeux qui ont bonne réputation. Par contre, j'ai un coup de gueule parce que voilà, le jeu était prévu pour être une trilogie.
Exact, c'est bien ce qui me semblait. Ouais.
Voilà, et donc j'ai fini le jeu, et ça se finit, mais en eau de boudin, comme on dit.
Une fois que tu finis un jeu, il n'y a pas de suite.
Exactement. Donc, et ça fait partie de mes très mauvais souvenirs, parce que non seulement, alors le jeu, je l'aime beaucoup, parce qu'il y a plein de qualités, je trouve, en termes d'univers, d'ambiance, de gameplay, de jeu, voilà, c'est vraiment très chouette. Par contre, quand tu passes plus de 10 heures sur un jeu, et qu'à la fin, on te fait un doigt... Comme ça, pour te dire clairement, bah, c'est pas vraiment fini, mon gars, attends la suite. Mais quand un jeu fait un bide, bah, t'as pas de suite. Donc, t'es un petit peu dégoûté. Donc, arrêtez de prévoir des trilogies, bordel, quoi. Faites d'abord un bon jeu, et si ça marche, vous faites la suite, quoi. Mais là, j'étais vraiment, ça reste une de mes grosses frustrations parce que l'univers est très chouette. Et malheureusement, il n'y a rien eu, pour terminer véritablement l'histoire de ce jeu-là. Et je suis déçu. Allez, on quitte l'univers torturé de Clive Barker's et on va se planquer malgré nous dans un asile psychiatrique.
On vient d'entendre le générique de fin de Outlast, sorti en 2013 sur à peu près tous les supports, a priori. Alors, Outlast, c'était un jeu qui est plutôt malin. C'est en quelque sorte une adaptation de Found Footage, qui était hyper en vogue en 2013 et qui malheureusement l'est encore pas mal. Très malin, car finalement ce genre de jeu, hein, où on trouve des caméras, on voit ce qui s'est passé, bah, c'est totalement adapté à une vue FPS. Donc dans le jeu Outlast, on retrouve exactement le même rendu crado de l'image, les décadrages, ce genre de choses, comme dans les films. Parfois on voit pas trop ce qui se passe, et bien entendu, on voit à travers une caméra, donc il y a le très célèbre indicateur de pile, qu'on va surveiller avec attention si on veut continuer de voir quelque chose. Alors, comme le disait Creeper, ça c'est un jeu qui se déroule dans un hôpital psychiatrique. Et il faut dire que l'ambiance du jeu est vraiment bien faite. C'est très flippant. C'est très flippant au début du jeu. Quand on commence à croiser des gens qui sont plus tarés les uns que les autres, manifestement tout le monde est plus ou moins en liberté là-dedans. Malheureusement, enfin en tout cas c'est mon avis, le jeu a un petit peu de mal à tenir la distance. Du fait qu'il y a une routine qui s'installe avec un principe de gameplay qui est basé uniquement sur la fuite du danger, mais finalement ce qui est la retranscription de ce qu'on trouve dans la majorité des found footage, quoi, où les personnages passent leur temps à se barrer, quoi. À la longue, ça devient un peu fatigant dans le jeu, ce qui fait que j'avoue que autant j'avais vraiment adoré le début du jeu, je dirais les deux premières heures, et j'ai dû un petit peu me forcer pour arriver jusqu'à la fin, mais je l'ai pas regretté, parce qu'à la fin il y avait le générique qu'on vient d'entendre et que moi je trouve super bien, parce que c'est exactement la musique que j'ai envie d'entendre à la fin d'une série B d'horreur. C'est la musique qui me pousse à rester quand je suis au cinéma jusqu'à la fin des crédits dans mon fauteuil, jusqu'à même si la lumière est allumée, je vais encore rester parce que je trouve que la musique est cool, qu'elle reprend bien à la fois l'aspect inquiétude, l'aspect danger, mais aussi l'aspect trépidant et action. C'est vraiment une belle illustration de ce que doit être un générique, quoi, d'un jeu ou d'un film de ce type-là. Alors c'est Samuel Laflamme qui est le musicien, j'adore son nom à ce gars-là, ça donne aussi bien la patate. Donc c'est un Canadien, hein, probablement québécois, qui a surtout beaucoup bossé pour la télé et qui au global livre plutôt une belle prestation sur Outcast, même si l'ensemble des morceaux est plus composé de morceaux d'ambiance que de morceaux à écouter réellement. Si ce n'est encore une fois ce générique qui est vraiment chouette quand même.
Alors je te rejoins pas mal moi sur le jeu parce que ça fait partie des titres comme ça que j'attendais beaucoup au niveau un petit peu, parce que le côté fan footage, aussi appelé simulateur de drap qui bouge, ça va bien dans le jeu vidéo parce que justement ça transforme un petit peu les codes qu'on avait l'habitude d'utiliser dans les jeux de flip, les survival horror etc, parce qu'on n'a pas d'armes et on passe son temps à fuir. Mais ce que tu dis est vachement juste parce que le jeu je l'ai terminé. Et c'est vrai que la routine s'installe surtout dans les mécaniques où ça fonctionne toujours de la même manière.
Oui.
Où vraiment tu vas avancer et tu vas déclencher des pièges et d'un seul coup tu sais que tu vas devoir courir à tel moment. Donc c'est un peu épuisant au bout d'un moment parce que même si ça arrive à se renouveler à un certain moment du jeu où on perd la caméra, etc. Mais il y a aussi une belle utilisation du corps, ce qui est plutôt bien parce que on sent que le personnage est lourd, il est obligé de se retourner, il est obligé de fermer les portes, de se cacher, etc. Donc l'utilisation du corps est assez sympa. Mais c'est vrai que, et j'espère que le 2 qui va sortir l'année prochaine va régler ces problèmes de redondance.
Ça, ouais.
Ouais, et même les décors, hein, parce que c'est un peu, du coup, le fait de voir en vision nuit, c'est un petit peu répétitif aussi. Mais rien que la démo qui est sortie il y a peu de Outlast 2, en tout cas me donne espoir d'avoir un jeu plus abouti, parce que c'est aussi un jeu indé, hein, faut le rappeler. Donc les bases sont là, mais c'est vrai que s'ils pouvaient donner un petit peu plus et moins tomber dans la routine, ça serait plutôt sympa.
Allez, on va quitter l'asile, enfin peut-être, peut-être pas, on ne sait pas trop, car là on va parler d'un jeu qui lui-même est complètement barré. Thank you. Vous venez d'entendre une musique de Layers of Fear sortie en 2015 sur Xbox One, PS4, PC, enfin la combinaison habituelle. Alors, c'est un jeu qui pour moi est un petit peu particulier et qui me fait penser à ce dont nous avait parlé Creepers il y a quelque temps en parlant de Firewatch. Il nous disait que Firewatch lui avait laissé une impression limite plus forte une fois le jeu terminé. Mais je dois dire que pour moi c'est un petit peu pareil avec ce Layers of Fear. C'est un jeu dans lequel on va contrôler un peintre clairement fou qui est à la recherche de la toile parfaite, donc une quête a priori forcément vouée à l'échec. Pour ce faire, il va déambuler dans sa maison et on va le suivre s'enfoncer dans sa propre folie et en même temps découvrir ce qui est arrivé dans sa maison notamment avec sa femme. Penelope, ce qui est le titre de ce morceau. Alors, on a là un jeu qui, je vais être honnête, hein, qui a de vrais défauts. Le rythme n'est pas toujours bien géré. On est dans un peu une caricature de Walking Simulator, c'est-à-dire qu'on ne fait pas vraiment de choix dans l'avancée de l'histoire. Mais d'un autre côté, je crois que c'est un jeu qui, pour moi, est la meilleure représentation de la folie que j'ai vue dans un jeu vidéo. On sent vraiment à quel point le personnage, donc qu'on joue nous-mêmes, est en train de perdre les pédales. Ou peut-être qu'il a déjà perdu les pédales, on n'est pas très sûr. Enfin, les repères sont brouillés sans arrêt. Et chose très appréciable, le jeu utilise un véritable langage vidéoludique, c'est-à-dire avec une mise en scène qui pousse le joueur à aller à un endroit ou à regarder un endroit, et pas seulement des cinématiques, ce qui demande tout de même autrement plus de talent, ce type de langage vidéoludique. Voilà, moi j'ai terminé le jeu, quand j'ai terminé le jeu, il m'avait fait plutôt une bonne impression, et avec le temps qui passe, bah, je réalise que finalement, les qualités que je lui ai trouvées, ben, elles sont peut-être encore plus fortes que ce que je pensais. En tout cas, il m'a marqué, ce jeu, malgré ses défauts, donc... On peut le trouver assez régulièrement à pas très cher. Moi, c'est un jeu quand même que je conseille, ne serait-ce pour essayer. En tout cas, pour les gens qui aiment les univers vraiment tortueux. C'est Arkadiusz Rejkowski qui a fait la musique. Et c'est un type bien, hein, puisqu'il cite dans ses inspirations Akira Yamaoka. Hein, comme quoi, donc ça
bravo, monsieur.
Et la musique qu'on vient de passer, moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il a aussi une inspiration du côté des films italiens et en particulier du côté de chez Argento, notamment avec cette petite voix qu'on vient d'entendre qui me fait quand même beaucoup penser à la ritournelle qu'on entend dans le Syndrome de Stendhal, qui est sans doute le dernier bon film hein, du maître italien. Et moi voilà, je trouve que ça fonctionne toujours très très bien quand sur une musique comme ça un petit peu étrange, on colle une mélodie qui ressemble à une ritournelle, ça mélange un aspect... un petit peu enfant, un petit peu étrange là-dedans. Bref, la musique idéale pour décrire un monde qui est complètement fou, quoi.
Ouais, tu me l'as vendu, hein, parce qu'en plus, le titre est sorti un petit peu de nulle part. Il a hyper bonne réputation. Et si on rajoute tout ce que t'as mis là, Yamaoka, Argento, etc. Enfin, voilà, moi, c'est emballé, c'est pesé. Prochaine promo, je fonce.
Allez, hop, c'est parti. Bon, il nous reste plus que un morceau pour clôturer cette sélection spéciale Halloween. Eh ben, ce sera Creepers qui sera à l'honneur pour vous le présenter avec un morceau extrait d'une série que nous chérissons tous les deux. Thank you.
C'est incroyable, mais sur plus d'un an d'émission, on n'avait jamais passé un seul morceau de la saga Silent Hill.
Tu sais quoi, je crois qu'on se retient à chaque émission.
Ouais. Parce qu'on se dit un jour, on fera sûrement une émission spécialement
pour ça.
Exactement. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a passé du Yamaoka pour le Lollipop Chainsaw. Mais j'ai choisi pour conclure cette émission, non pas une musique de Yamaoka, mais le seul Silent Hill qu'il n'a pas composé, puisqu'on va parler de Silent Hill Downpour. Et c'est donc composé par Daniel Licht. Et la musique, c'est Intro Perp Walk. Alors... C'est compliqué pour Silent Hill Downpour parce que donc c'est à la fois encore un Silent Hill qui n'est pas développé par la Silent Team, qui a arrêté après le 4, si je ne m'abuse. Ouais. Et donc on n'est pas non plus sur un univers, une ambiance, un travail sonore fait par Yamaoka qui a travaillé jusqu'à celui-ci. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté vraiment sur le dernier épisode qui était sorti, je crois, sur PSP ou un truc comme ça. Enfin voilà, il a travaillé assez longtemps sur la série, même quand ça commence à partir en cacahuète. Et moi j'aime beaucoup ce Silent Hill Downpour pour plusieurs choses, parce que même si il est pas parfait, faut être honnête aussi, il y a quand même quelques défauts de rythme, etc. Mais je trouve qu'ils ont essayé de faire quelque chose d'intéressant, parce que ils se sont démarqués complètement de l'univers qu'avaient placé justement les anciens Silent Hill, avec l'utilisation de l'eau et de la pluie. Et la ville de Silent Hill trouve un côté un petit peu... comment expliquer ça un petit peu
renouvelé, c'est comme si c'était un peu un nouvel angle sur Silent Hill, et malgré tout je trouve qu'ils ont réussi tout de même à garder l'essence même de Silent Hill,
oui,
tout en apportant
tout
un éclairage un peu différent.
Il y a un côté voilà mélancolique, c'est ce que je cherchais dans Silent Hill là. Et quand on déambule dans la ville de Silent Hill, il n'y a plus forcément que de la peur qui s'installe, mais en fait on rencontre parfois des anciens habitants perdus, des âmes un petit peu, vous savez, comme dans les Dark Souls ou de Bloodborne, vous pouvez faire des missions comme ça où en allant voir des âmes vous pouvez essayer de les libérer, etc. Et bah dans Silent Hill vous avez un peu ce système là où vous pouvez visiter quelques maisons de Silent Hill et voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui donne une âme en fait à la ville où on avait toujours l'habitude de déambuler avec des monstres un petit peu partout. Et là ce petit aspect comme ça, mission secondaire avec des petits scénarios, je trouve que ça apporte vraiment une couche supplémentaire à la série, et c'est hyper appréciable. Surtout quand on voit un petit peu les choix très très malins au niveau du personnage, notamment la première scène, je trouve, qui est quand même assez forte.
Qui est très très belle.
C'est vrai. Ouais, très très belle et très très forte. Et justement, la musique qu'on vient d'entendre, donc intro Perp Walk, elle introduit, c'est le générique, qui est très très bien fichu, je trouve, de ce Silent Hill là. Il y a une vraie montée en puissance dans la première partie du jeu qui fonctionne très très bien. Et moi, ce Silent Hill, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi il a pas marché autant que les anciens. Alors, faut dire que la série est un peu en désuétude depuis un petit moment. Et Konami, on voit un peu vers quoi ils sont partis maintenant, qu'ils ont vraiment énormément de mal à soutenir des grosses franchises. Mais donc le jeu a fait un bide énorme, et le studio Vatra Games, pardon, qui est un studio tchèque, a dû fermer ses portes après l'échec du jeu. Donc ça, c'est un petit peu triste, mais en tout cas c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je vous recommande.
Ça mériterait qu'on lui donne une deuxième chance, hein, parce que je crois qu'il a aussi souffert du fait que c'était un Silent Hill qui n'était pas développé par des Japonais. Il y a toujours des préjugés comme ça qui sont malheureusement très habituels, hein, chez les amateurs de jeux vidéo. Ben, il n'y a pas que le Japon dans le monde, hein. Il y a aussi des gens là dans ce studio tchèque qui savaient ce qu'ils faisaient. Donc je rejoins complètement Creepers. Moi, il y a des petites choses que j'ai pas adoré dans le jeu. Hein. Comme Creepers l'a dit, il y a des défauts. Mais il y a quand même aussi ce dont on a parlé, l'éclairage sur la ville. J'ai trouvé qu'il y avait aussi des scènes qui sont hyper réussies et qui, à elles seules, pour moi, justifient qu'on joue au jeu.
Celle du théâtre là avec Hansel et Gretel,
c'est à celle-là que je pensais.
Ah ouais, magnifique.
La scène du théâtre, en une scène dans ce jeu-là, ça fait mieux que la majorité de la production des jeux, hein. Donc faut donner une chance à ce titre, qui a quand même des passages hyper comme ça, des fulgurances qui sont très très intéressants.
Le passage train fantôme aussi, qui est très très fort.
Absolument,
qui est très 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 fort. Il y a plein de souvenirs qui reviennent en parlant. C'est vraiment un jeu qui m'a marqué sur plein de choses. Il y a plein de fulgurances qui mérite vraiment vraiment sa chance. Et un petit mot quand même sur Daniel Licht, qui est connu honnêtement, qui est ressorti, tout le monde parlait justement de Dexter parce qu'il a fait un peu que ça de vraiment très très connu, que c'est un mec qui officie beaucoup sur des séries Z, alors quelques séries B comme ça, mais qui a aussi fait la musique de Dishonored 1 et qui bosse sur sa suite qui sort dans pas longtemps. Donc il a fait, je trouve, vraiment du bon boulot. Il a pas démérité, parce que c'est quand même très compliqué de passer après Yamaoka.
Ouais.
Et on retrouve un petit peu des sonorités dans la musique qu'on vient d'écouter, mais il trouve son style, il copie pas. Il n'y a pas que de l'industriel à la Yamaoka dans ce jeu-là. Et donc ça fait partie du charme de Silent Hill, il a trouvé sa voie, on va dire.
Eh bien voilà, Ron, il est temps de partir de cette émission cauchemardesque, car on vient de malheureusement passer le dernier morceau de l'émission.
Et oui, en plus, je n'ai pas trop regardé le chrono, mais je crains qu'on ait peut-être été un petit peu bavard sur celle-ci. Faut dire qu'on est sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, bah voilà, parfois on se laisse un petit peu emporter. Mais ce qu'on a souhaité faire avec cette sélection, c'est une sélection quand même avec des morceaux qui filent peut-être vraiment un petit peu la pétoche, hein, quand même. J'espère aussi qu'on a attiré votre curiosité et votre attention sur certains jeux, sur certaines musiques, voire même sur certains films, parce que je crois qu'on en a cité un paquet, non ?
Ouais, on s'est un petit peu lâché effectivement, mais bon, imaginez bien, hein, des jeux d'horreur, des films d'horreur, nous on est parti, on est chaud, patate. En tout cas, on a essayé de partager le maximum notre passion pour ce style assez particulier, mais on ne va pas se quitter comme ça, puisqu'on va un petit peu écouter une reprise, là maintenant, donc de la Save Room de Resident Evil 2, qui est, je trouve, assez cool, osons lâcher le mot, et il est quand même temps, malgré le fait qu'on soit dans une ambiance assez horrifique et sanglante, et bon, on va quand même vous embrasser, vous encourager à partager l'émission, de nous dire ce que vous avez pensé de notre sélection. N'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez un petit peu comme ça dans les jeux d'horreur, les musiques horrifiques, qu'est-ce que vous adorez dans ce style-là, et on se dit au mois prochain.
Salut.